Très bien, bonne analyse. Ce psaume me paraît être un bon exemple d'un chant où on s'adresse au monde entier. Hein, c'est un cantique de mission qui exprime la mission du peuple d'Israël envers les nations et qui est un appel aux nations, à tous les peuples de la terre, de se prosterner devant Dieu et de l'adorer. Car il vient juger toute la terre, verset 13. Il jugera le monde avec justice. Et ceci me rappelle la locution dans l'Apocalypse qui dit que Dieu va donc envoyer un jugement sur ceux qui habitent la terre. Les habitants de la terre dans l'Apocalypse, c'est les inconvertis. Je me souviens si, je me demande si Jean n'a pas peut-être songé à cette locution qui se trouve parfois dans les psaumes, mais dans le psaume 96, les habitants de la terre ne sont pas forcément les inconvertis. Dans l'Apocalypse, cette locution semble figer les gens dans l'incroyance, dans l'incrédulité, alors qu'ici, c'est une invitation à tous ceux qui habitent la terre et qui sont encore dans la possibilité de choisir. Ok, puis on avait aussi demandé que vous regardiez le psaume 98. D'accord? Ok. Ce psaume se ressemble un peu au psaume précédent. Deux exemples, deux très bons exemples de ce que nous avons vu par rapport à la mission du peuple d'Israël envers le monde. Ok, d'accord. On passe à la page suivante et nous sommes au quatrième groupe. Et si je ne m'abuse, on leur a demandé de regarder quatre textes. Est-ce que je me trompe? C'est bien juste? Quatre textes. Donc, qui était la secrétaire? Ben, c'est déjà un bon départ. On va faire le quatrième ensemble. Comment est-ce qu'on peut chanter aisément les cantiques de Sion quand on n'est pas là, à Jérusalem? Aujourd'hui, quel serait l'équivalent de ce sentiment? Puisqu'on n'a pas de Jérusalem, l'Église se trouve éparpillée sur la surface de toute la planète. Nous sommes ici en tant que pèlerins. D'accord? Là où Dieu est présent, où est-ce qu'il est présent? D'abord dans chacun de nous, dans son fort intérieur, on peut avoir la communion avec le Seigneur. Donc si on est loin de lui, on le ressent à l'intérieur de nous-mêmes. Et le temple du Seigneur, c'est aussi l'assemblée locale. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, vous au pluriel, humas, vous êtes le temple au pluriel, le temple du Seigneur. Donc forcément, si on s'éloigne de la présence de Dieu dans son peuple, où qu'il se trouve, ça ne marche pas. On n'a pas envie de chanter les cantiques du Seigneur, les hymnes, la musique spirituelle. Mais lorsqu'on est ensemble, là, on trouve du plaisir, comme cet après-midi, n'est-ce pas? Il y a une étincelle, hein. On ne trouve pas ça quand on est tout seul, même dans la salle de bain. C'est autre chose, hein, quand on chante ensemble. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, les rouges. C'est pas les Russes, hein. Édom, ça veut dire roux, hein, la chevelure. Et puis quand vous visitez Petra, vous voyez ces rochers qui sont pleins de fer. C'est vraiment des rochers roses. Oui, dans la journée de Jérusalem, disait rasé, rasé jusqu'à ses fondements. C'est plus que triste, c'est une musique agressive. Hein. Paf! 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 Moi, je vois des hein, tympanistes là. C'est une musique agressive. Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. Oula! On dirait presque que c'est de l'islam là. Mais il y a une différence entre Allah et l'Éternel. Parce que Allah, s'il se lève ce matin et il est de bonne humeur, tu t'en vas au paradis. S'il est de mauvaise humeur, tant pis pour toi. même si tu as fait tout ce que tu voulais faire, tu t'en vas à l'enfer. Ici, il est question de rendre justice à ceux qui s'élèvent contre Dieu. Bon, on a envie vraiment de commenter tous ces textes. Il faut passer à l'Ecclésiaste au chapitre 7. Donnez-moi quelques exemples des chants des insensés à l'heure actuelle. Parce que c'est plutôt universel, ce genre de catégorie. Il y a des chants dans toutes les cultures, des chants des insensés. Mais qu'est-ce que ça raconte, les chants des insensés?
Ça veut rien dire en général. Ça veut dire des choses mauvaises. C'est en contraire à l'évangile, quoi. C'est ça.
Par exemple, quels sont les mensonges qui passent par les chansons? Qu'entendent de nos jeunes dans leurs chansons? Comment?
Nous irons tous au ciel.
Nous irons tous au ciel.
Pas d'enfer, pas de paradis.
Ah, il n'y a pas de ciel.
Imagine.
Ah, imagine qu'il n'y ait pas de ciel, qu'il n'y ait pas d'enfer. Oui. Oui, les Beatles. Combien de fois est-ce que les catholiques chantent le texte biblique du Magnificat? C'est la parole de Dieu. C'est Marie qui dit que Dieu est son sauveur. Je me souviens, je chantais avec le Madrigal de Luxembourg pendant plusieurs années. Le conducteur de ce petit groupe, il jouait de l'orgue à la cathédrale de Luxembourg. Je lui ai demandé une fois, Carlo, à quoi tu penses quand tu chantes le Magnificat? Comment tu veux dire? Ben, regarde le texte. Regarde ce que dit Marie, que le Seigneur est son sauveur. Dans quel sens? Bon, je savais très bien quelle était la réponse officielle de l'Église catholique. Mais lui, il était plus intéressé à la musique, à la théologie. Il lui a dit, j'ai jamais pensé à ça. Il lui a dit, tiens, je sais pas, il faut que je demande à mon curé. Et puis, il ne m'a jamais donné de réponse. Mais c'était une très bonne illustration de ce que font nos amis catholiques. On répète les mêmes paroles, mais c'est vide de sens. C'est aussi, oui, l'illustration d'un cantique.
En fait,
de personnes insensées.
Ce que tu veux dire, c'est que le chant peut être juste, mais la personne qui le chante est insensée, parce que ça n'a aucune correspondance dans sa vie, quoi. Elle n'est pas le Seigneur, et donc ça n'a pas de vérité. Ce que je...
Ouais.
Enfin, le message qu'il transmet n'est pas...
Et je pense que dans ce texte, s'il y a un contraste entre la réprimande du sage, qui forcément est quelque chose de vrai, mais qu'on ne veut pas entendre, et le chant des insensés qui est faux et qu'on aime entendre. Mais on peut trouver toutes sortes d'illustrations dans notre culture. Et ce serait peut-être un sujet de discussion dans votre groupe de jeunes, de demander un peu, lisez ce texte-là. Donnez-moi quelques exemples. Moi, j'ai été choqué la dernière fois que j'ai parlé de la musique avec nos jeunes. Pendant 2 heures, un vendredi soir, on a fait une petite soirée autour de plusieurs morceaux de musique. Et j'ai commencé en leur posant des questions. Écrivez-moi le titre de ton chant favori, ce que tu préfères entendre à la radio, quelque chose que tu as vu, disons quelque chose sur YouTube. Alors, les trucs qu'ils ont sortis, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Ils aimaient ça. Où sont les parents? Enfin, on passe à Ésaïe 5. Ésaïe au chapitre 5, les versets 1 à 6. Ça reste un peu ambigu, n'est-ce pas? Oui. Le bien-aimé, c'est celui qui remue le sol, ôte les pierres. C'est qui alors? Qui est le bien-aimé? C'est le Seigneur, c'est l'Éternel qui plante Israël dans le pays promis pour que son peuple porte du fruit, n'est-ce pas? Et puis, est-ce que le peuple porte du fruit? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a tout fait pour mon peuple, habitant de Jérusalem, verset 3, et homme de Juda. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire à ma vigne? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour elle? C'est vraiment, je suppose que c'est ou bien Ésaïe qui chante à l'Éternel, ou bien c'est en quelque sorte une sorte de prophétie où Dieu se chante à lui-même. Ça reste un peu ambigu. En tout cas, on sait très bien qui est celui qui s'occupait de la vigne et qui est la vigne. Tout à fait. Il y a des pleurs ici. C'est comme la croix huguenote que porte Alain. Vous savez, vous connaissez le symbolisme de ta croix huguenote? Donc il y a la croix. Vous connaissez la croix huguenote? Donc sur la pointe de la croix et à l'intérieur des petits cœurs qui entourent. Elle est trop petite pour que vous puissiez voir, mais regardez après. Oui, non, moi, je ne veux pas parce que je regarde la montre. Mais vous pouvez regarder sa croix. Sur la pointe de la croix, il y a des petites des boules, ce qu'on peut dire, des perles. Et ce sont les larmes des persécutés, des huguenots qui ont été persécutés. Et ça, c'est un cantique où il y a des larmes. Dieu pleure sur son peuple. Ce sont des pleurs de frustration. Si on peut dire que Dieu est frustré, mais il sanglote. Et donc là, il faut une musique qui est propre à ce genre de choses. Et là, on voit que ce n'est pas toujours les psaumes, victoire, célébration, majesté, etc. C'est parfois, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait au Seigneur. Vous connaissez les lamentations de Jérémie? Il y a beaucoup de compositeurs qui ont fait des choses autour des lamentations de Jérémie. C'est très très parlant. Là, évidemment, c'est Jérémie lui-même qui pleure sur Jérusalem. Et le Seigneur fait ça aussi à notre égard. Le Saint-Esprit nous dit que parfois il est lui-même attristé. Nous ne devons pas attrister l'Esprit de Dieu par notre colère les uns envers les autres. Un tout dernier texte dans Ésaïe 23. Versets 15 à 16. Alors, on n'a pas eu le temps de regarder, vous avez dit. Donc le texte dit, en ce temps, Tyr, donc c'est la ville de Tyr, Tyr tombera dans l'oubli 70 ans, ce que dure la vie d'un roi. Au bout de 70 ans, il en sera de Tyr comme de la prostituée dont parle la chanson. Prends la harpe, parcours la ville, prostituée qu'on oublie. Joue bien, répète tes chants pour qu'on se souvienne de toi. C'est plein d'ironie. La prostituée, par définition, est une femme que l'on oublie. Elle est anonyme, elle est un objet. Elle est là pour être jetée. Et son chant, la chanson de la prostituée, est quelque chose qui ne vaut absolument rien. Parce que si elle veut ne pas être oubliée, il faut qu'elle répète les mêmes paroles pour attirer l'attention sur elle et tire et comme cette prostituée. Donc apparemment, Ésaïe peut identifier une chanson qui correspond à une prostituée. C'est quelque chose de tout à fait étonnant. Existe-t-il encore des chansons comme ça dans notre culture? Des chansons de prostituées. Vous en avez entendu? Assurément. Moi, quand je vais à Cactus faire des achats ou prendre un café chaque samedi avec Cathy, c'est une longue tradition, on prend un café et un peu de pain luxembourgeois ensemble et on écoute un peu la musique dans les toilettes, dans le magasin, en restaurant. Chaque samedi, c'est un peu différent, donc il varie selon les goûts. Parfois, c'est un peu jazz, un peu cool. Parfois, c'est paf, paf, paf. Parfois, c'est un peu au milieu. Presque jamais de classique. Mais là, souvent, il y a des chansons de prostituées. Je ne sais pas si vous êtes sensible à cela, mais il faut écouter les paroles.
Et déjà, rien que la façon de chanter aussi.
Et la, les, le timbre, oui. La... Des glissades partout. On ne chante pas comme King's College Choir. Tzac, tzac, tzac. Les chansons de prostituées sont toujours pleines de glissades. C'est pourquoi, lorsque nos jeunes chantent, je ne permets pas de glissades. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont jamais entendu d'autres façons de chanter que des chansons de prostituées. Et ils chantent tous comme ça. Et ils viennent aux hymnes et ils chantent comme des prostituées. Non. Ça, c'est pour le bar. Ça, c'est pour le café. Ça, c'est pour les discothèques. Mais quand on chante des cantiques, il y a un côté objectif. L'émotion y est. Mais cet après-midi, il n'y avait pas de glissade. Il faut précision avec expression. Il y a, c'est plein d'émotions, mais on n'a pas besoin de ce... Hein? Ok, le cinquième groupe, Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. C'est pas grave. Est-ce qu'on peut penser à quelques exemples de chanteurs qui possèdent une très belle voix et qui chantent de belles choses et tout le monde applaudit et il n'y a aucun changement dans leur vie parce qu'ils s'en vont après? Donnez-moi quelques exemples de cela.
Qui chante et qui, tu dis, qui...
Quelqu'un qui a une très belle voix. On chante des choses magnifiques. Bravo ! Et puis on s'en va. Et on ne change absolument rien dans sa vie.
Les auditeurs le changent.
Les auditeurs ne changent rien.
Qui chantent des paroles chrétiennes.
Ben, peu importe. Donnez-moi quelques exemples de cette situation. Parce que la situation illustre l'indifférence de l'auditoire à la prophétie d'Ézéchiel.
Les Pavarotti.
Les Pavarotti. Elvis Presley. On peut demander si Elvis Presley avait une belle voix. Mais... C'était un beau garçon, peut-être. Une belle chevelure. Jacques Brel. Oh happy day, happy day. Est-ce que ça peut arriver dans votre église?
Ah ben oui.
Ah ben oui. Quelle voix magnifique. Et puis même applaudissement. Moi je déteste ça dans les églises. Et je trouve que ça devient aussi chose courante dans les églises qu'on donne, qu'on applaudit la musique, on n'applaudit pas la prière, on n'applaudit pas le sermon, on n'applaudit pas les offrandes, mais la musique, si, là ça peut passer. Mais laissons au Seigneur, c'est lui qui écoute d'abord. Et si lui, il nous donne des applaudissements lorsque nous sommes devant lui au tribunal de Christ, c'est ça ce qui compte. Mais le reste, les applaudissements ont à faire dans notre culture avec la salle de concert. Ça parle de spectacle. On admire.
Oui. Oui, mais bon, c'est aussi logique. Pour un spectacle, c'est logique d'applaudir.
Oui.
On veut dire merci et on veut dire j'apprécie ce que vous avez fait.
Bien sûr.
Et je pense dans les églises, les gens ils font ça plutôt dans cette optique-là. De oui. Dire merci comme amen.
Oui.
Ça devient.
Mais on doit leur donner une instruction tout autre. On doit leur expliquer la signification dans le monde des applaudissements et dans l'Église. C'est différent parce qu'il y a un auditoire suprême qui, lui, doit nous applaudir. Et dans le culte, nous attendons sa réponse à notre louange. C'est ça ce qui prime. Alors que si on permet aux gens d'applaudir, ça fait boule de neige. Et il y a un dynamisme horizontal qui s'installe dans la louange, qui est très difficile à bannir après. Et ça, c'est faux. C'est pas de la louange. C'est de la communion fraternelle, c'est autre chose que la louange. Donc on a besoin de dire aux gens, je pense, au lieu d'applaudir pour dire merci, après le culte, aller vers celui qui a pris du temps pour préparer cette prédication dans la musique. Et dites-lui, dites à elle, communiquez votre appréciation. Et mettez surtout l'accent, non pas sur le fait que la personne a une belle voix, si effectivement elle a une belle voix, mais remerciez-lui de sa préparation, du fait que la personne essaye de faire passer le message, quel effet ça a eu pour vous. Y a des gens qui n'apprécient pas ça. Hein. Y a des gens qui ont déjà quitté notre église partiellement parce qu'on avait dit non aux applaudissements. Bon, je pense qu'il ne voulait pas comprendre. Et on essaie de le dire gentiment, en expliquant pourquoi. Il y a une raison à cela. Il nous faut une certaine discipline dans nos églises, parce que sinon on devient un club. Et on devient des artistes. Et on n'est pas là pour ça. Enfin, là je suis assez catégorique. Et si vous n'êtes pas d'accord, on peut en discuter. En tout cas, j'ai vu dans les églises que nous fréquentons que lorsqu'on commence à faire ça et on souligne la belle voix par ce genre de réaction, ça fait vraiment boule de neige. Et progressivement, après 10 ans, vous n'avez que du spectacle. On a déjà eu ce problème avant notre époque. Mais ça, c'est encore un sujet pour demain et après-demain. Oui, mais c'est très difficile, n'est-ce pas, pour l'auditoire de dire « on applaudit le Seigneur
». Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'applaudir, mais dans nos cœurs,
oui,
on doit être en train de,
oui,
d'applaudir Dieu,
oui,
pas être en train d'applaudir une personne.
Tout à fait. Une autre manière de faire, c'est demander à la personne de chanter et puis de chanter quelque chose où toute l'assemblée à la fin peut se joindre et puis on chante ensemble. Là, il faut réfléchir à l'avancée. Quelqu'un d'autre?
Oui, j'allais dire que souvent ce qui se passe dans les assemblées, la manière qui a été trouvée pour dire qu'on n'applaudit pas la personne et en même temps applaudir, c'est de dire finalement qu'on applaudit Dieu, et tout le monde applaudit, et puis il dit voilà, les applaudissements sont pour Dieu.
Et
c'est pas mieux non plus. Non, non, mais il y a des églises, je voulais juste souligner qu'il y a des, on a connu des églises qui faisaient dans ce sens-là. On gardait les applaudissements, mais on disait qu'ils n'étaient pas pour la personne, mais pour Dieu.
Ouais. Sur le texte. Oui, c'est bien dit.
Et qu'il le prie. Privilégiait beaucoup aussi le chant d'assemblée,
oui,
ou de chorale, mais pas de soliste.
Oui.
Oui.
On va parler un tout petit peu de la raison, enfin des raisons pour lesquelles dans l'église il y a de plus en plus de solistes. Je pense qu'il y a une raison historique et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais ça c'est pour demain, après-demain. Ok, bon, si vous permettez, le cinquième groupe avait encore, je pense, 2 textes, n'est-ce pas? Donc, Ésaïe 38, verset 20. Pardon, excusez-moi, je suis en Ézéchiel. Laissez-moi retrouver Ésaïe 38, 20. Ésaïe 38, verset 20. Est-ce que je me suis trompé de verset? Oui, c'est un autre verbe, hein. C'est pas le verbe chanter, c'est chanter en jouant d'un instrument à cordes. Donc c'est traduit autrement en français, nous ferons résonner les cordes de nos instruments. Ça c'est toute une longue phrase pour traduire un verbe en hébreu, nagan. Alors, commentaire? Est-ce qu'on connaît le texte de ce chant? Est-ce qu'on connaît le texte de ce chant? Qui était Ézéchias? Le roi Ézéchias, qui était malade, il allait mourir. Il a dit, oh non Seigneur, c'est trop tôt. Et le Seigneur a dit, bon écoute, je te donne encore 15 ans. Et puis, le soleil change de position apparemment, ou l'ombre change, on ne sait pas comment. Le Seigneur a fait ce miracle. Alors Ézéchias, il chante, enfin il donne quand même un texte. Et où se trouve le texte? À partir du verset 10, vous trouvez toute, chanson, hein, toute la chanson à partir du verset 10. Je disais. Donc je pense que c'est ça, le texte de son chant, que j'ai jamais entendu. Je suppose que ça existe. Quelqu'un a dû mettre ça par musique, mais je ne connais pas la littérature. Moi, je ne suis pas musicien. Donc, ce serait, disons, quelque chose pour vous, si vous voulez rechercher ce soir, faites une recherche Google pour voir si Ésaïe 38, versets 10 à 19, a été mis en musique quelque part par quelqu'un. Peut-être que Handel ou les classicistes ont fait ça. Mais je pense qu'on a le texte là devant nos yeux, qui était accompagné d'instruments. Et quand nous le verrons demain et après-demain, certains protestants, par exemple Calvin, ne voulaient rien avoir avec les instruments, parce que c'était du vieux jeu. Les instruments, c'était pour la période où le peuple de Dieu n'était pas mûr. Et maintenant que nous sommes dans l'ère du christianisme, il ne faut que les voix. Fini les instruments. Et dans certaines églises protestantes aujourd'hui, pas d'orgue, pas d'instrument, même pas d'harmonium, pas de violon, pas de guitare, pas de juice harp, twing, twing, twing. C'est que de la voix. Mais ici, il y a quand même des instruments. On va discuter peut-être un tout petit peu du pour et du contre des instruments dans des œuvres d'évangélisation. Ok, Lamentation 3. Le verset 14 dit « Je suis pour toi, mon peuple, un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. » Alors donnez-moi un exemple de chanson où on se moque de Dieu, on se moque du peuple de Dieu, on se moque de la moralité biblique.
La salsa du démon. La salsa du démon. J'ai une collègue qui l'a fait chanter aux enfants à l'école.
Quel est le titre ?
Dans une école catholique, la salsa du démon.
Dans une école catholique.
Oui, dans une école.
La salsa du démon, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu les paroles.
C'est de Coluche.
En fait, nous, on joue dans une harmonie sociale, à la base. Et ils nous l'ont fait jouer en instrument, comme ça, une fois. Et je ne connaissais pas du tout les paroles. Et quand j'ai entendu, parce qu'il y a une petite chorale aussi, et quand j'ai entendu les paroles qu'il y avait sur cette chanson, on a été trouvé le chef, hein, en âme et conscience, on ne peut pas jouer ce morceau. Quoi. Et donc, on a refusé de jouer ce morceau.
Tant mieux pour vous.
On a fait un concert de, bon, je ne sais pas combien de personnes, et Vincent et moi, dans les 300 musiciens qui étaient là, on n'a pas joué.
Bravissimi. Mais, c'est ce qu'il faut faire. Hein.
Et là, on a dû vraiment prendre position, parce que franchement,
ouais,
on en aurait fait mais la nuit, de l'ordure.
Ouais.
C'est l'ordure.
Ouais.
C'est Coluche qui avait choisi.
C'est l'orchestre du Splendide.
Mais il y a de plus en plus de choses comme ça. Et ce qui me fait beaucoup souci, c'est que nos jeunes, dans nos églises, n'arrivent pas à discerner quel est le chant de la prostituée, le chant du moqueur, le chant de la belle voix qui ne veut rien dire, le chant des insensés. On n'arrive pas à identifier parce qu'on ne pense plus. On engobe, on laisse rentrer et puis on avance en ne pas faisant de réflexion du tout. Et nous, c'est à nous. Hein. Ça fait partie de notre mission. C'est pourquoi on est ici. Si on veut évangéliser par la musique, il faut commencer à la maison. Parce que nos enfants, nos jeunes, dans nos églises, il y en a beaucoup qui sont perdus. Et si nous n'arrivons pas à expliquer ces choses-là à ceux qui fréquentent nos églises, il ne faut pas croire qu'on fait du bon travail par la musique, en évangélisant les gens qui sont à l'extérieur. Il ne faut pas rêver. Le prochain groupe, numéro 6, avait Ésaïe 24, c'est le verbe qui veut dire crier de joie. Il y a le verbe et le nom. Rina et Rinan. Ésaïe 24. Verset 14. 24-9.
C'est quel groupe là ?
24-14, le sixième groupe. C'était qui encore ?
On a fait du début, on a fait d'autres versets dans le même chapitre.
D'accord.
Donc ça, c'était l'autre groupe, je pense.
Mm-hmm. Allez-y, partagez avec nous ce que vous avez trouvé.
Ah oui, d'accord. Okay. Tu veux faire Cathy ? J'essaie de le trouver. Donc c'est Judas qui chante. Non, qui ne chante pas, en fait. Il y avait des chants, mais les chants se sont arrêtés parce que Dieu a jugé, allait juger Judas. Et il décrit comment le pays sera triste, comment la joie va disparaître pendant ce moment-là. Mais chapitre 24, verset 9, on ne boit plus de vin en chantant et les cœurs forts sont amers aux buveurs. Et ce qui va aussi arrêter, ce sont les chants de ceux qui boivent, les chants de ceux qui sont ivres. Ils vont plus chanter ces chants-là, parce qu'ils seront un peu de la crainte de Dieu va s'installer. Je pense que je me souviens bien.
Oui, il n'y a pas de fête de vin quand on est en prison, hein, mm-hmm. ou quand on se promène vers Babylone, en chaîne.
Il n'y a pas vraiment quelqu'un qui chante, mais quelqu'un qui écoute. Donc on ne pouvait pas vraiment remplir les autres cases.
D'accord. Mais le texte que j'aurais voulu, bon, je n'avais pas les feuilles entre les mains quand j'ai parlé avec vous, avec le groupe. Mais le verbe... Mais c'est bien le verbe Rina... au chapitre 24, verset 14, c'est « Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse, débordent la mer, ils célèbrent la majesté de l'Éternel. » Donc ça, c'est juste le contraire. « Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, dans les îles de la mer. » Donc, contraste entre ceux qui vont dans l'esclavage et le reste d'Israël qui croit dans le Seigneur, là, il pousse les cris de joie. Donc, contraste entre les cris de joie dans l'Éternel et les chants des buveurs. Quelle est la différence, d'ailleurs? Vous avez déjà entendu chanter des gens qui sont ivres? Chante fort. On comprend rien? Comment? Oui. On se laisse aller ?
Oui, c'est ça. On perd contrôle.
C'est le but, hein ? On boit pour oublier. Et celui qui crie à l'Éternel, il ne crie pas pour oublier, mais pour se souvenir. Et pour exprimer une idée claire, pleine de confiance. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière. Verset 16. De l'extrémité de la terre, nous entendons chanter gloire au juste. Alors, Isaïe dit, mais moi, j'ai dit, je suis perdu. Je suis perdu, malheur à moi. Les pillards pillent et les pillards s'acharnent au pillage. Donc, il voit, en tant que prophète, il voit plus loin que le reste d'Israël, un jour, va chanter fort, pousser des cris de joie. Mais pour le moment, c'est vraiment... C'est autre chose que ça. Ok, on va revenir en bas de la deuxième page à 3. On va revenir à cette locution, un cantique nouveau, Shir Hadash. un peu plus tard. Nous passons à la troisième feuille, oui. Et là, il y avait le tout dernier groupe, le groupe 7, qui devait nous parler un tout petit peu de quelques textes nouveaux testamentaires, en commençant par Actes chapitre 16.
Le cantique de Paul et Silas en prison. Donc c'est eux qui chantent, ceux qui écoutaient, bien sûr le Seigneur les écoutait, et aussi les prisonniers, et même ceux qui travaillaient là-bas, comme celui qui s'est converti, probablement, j'imagine, ils l'ont entendu aussi. On croit qu'il y avait la louange, parce que la Bible dit, ils chantaient les louanges de Dieu. Mais sans doute aussi, c'était un témoignage aux autres que, malgré le fait qu'ils étaient encore une fois en prison, qu'ils avaient de la joie. Sans doute, c'était un témoignage aussi de qui le Seigneur était pour eux. Et troisièmement, on croit que sans doute c'était aussi pour s'édifier, pour s'encourager dans cet endroit difficile. Donc c'était aussi l'édification, ils voulaient s'encourager. Et donc on suppose que le chant avait l'air assez joyeux, parce qu'ils chantaient les louanges de Dieu, et ils voulaient s'encourager sans doute. J'imagine, même s'ils chantaient, qu'ils n'étaient pas contents de se trouver là. Donc j'imagine qu'ils s'efforçaient à dire, voilà, on va chanter quelque chose de joyeux, on y va. Mais on ne sait pas exactement. Là.
Qu'est-ce que vous pensez de la qualité sonore? La qualité du concert. Qu'est-ce qu'ils venaient juste de subir? Ils avaient été battus. Alors, si vous êtes battus, vous chantez bien. Enfin, il faut demander à Isabelle comment ça se fait. Mais...
Non, non, non.
Mais je me dis, s'ils avaient été battus sur le diaphragme et sur le dos... Moi, je me demande comment ils ont chanté.
Il y avait des sept aux pieds.
Ouais. Donc, moi, je ne pense pas que ça a été King's College. Hein. Ce n'était pas Radio France. Mais quand même, les paroles étaient... Qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah, peut-être... Oh, louons le Seigneur! Je ne sais pas. Je peux m'imaginer... Il n'y a dans le texte aucune preuve que Dieu ait fait un miracle entre le moment où ils sont battus et le moment où il faut chanter. Et le texte emploie le mot hymnéo, donc ils hymnaient. Ils hymnaient, ils ne faisaient pas de psaumes, ça c'est un autre mot, là. Vous voyez la liste qui suit. Donc il y avait... Probablement qu'ils ne chantaient pas un psaume de l'Ancien Testament, mais peut-être qu'ils chantaient une autre chanson, un autre chant. Il y avait des chants qui certainement étaient écrits très, très tôt à l'époque. Bon, si vous voulez chercher un texte qui appuie la notion de la musique employée dans l'évangélisation, je pense que c'est un texte clé. Mais attention aux circonstances. Parce que si vous voulez vraiment chanter ou ça a un impact, faites-vous battre avant. Deux textes clés, Éphésiens et Colossiens. Voilà, ça c'était vraiment le dernier groupe. Donc on va prendre d'abord les Éphésiens. Donc deux lettres qui furent écrites... à peu près à la même époque. Paul se trouve où? Il est en prison, oui, à Rome. Éphésiens 5, 19. Donc on est ce verset par cœur. Hein. Donc qui va... Il va parler donc pour le septième groupe. Alain.
Est-ce que je pourrais dire d'autres dans... On voit
ça aussi, le Colossiens, c'est ce que je vous ai lu ce matin.
Quelle est la différence entre ces trois types de chants? Il y a des hymnes, des cantiques
et des,
Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Quelle est la différence? Comment les définir? Vous avez discuté un tout petit peu de ça ensemble? Bon, les psaumes, c'est quoi? Les psaumes? Les psaumes de l'Ancien Testament. Non, ça c'est assez c'est peu discutable. Mais la différence entre des hymnes et des cantiques spirituels, c'est bien possible, cette distinction. Mais il est très difficile de faire une définition claire qui exclut...
On peut rappeler là-dessus parce que c'est un peu... ça se tient sur les...
Ouais. Est-ce que Paul, dans ces deux textes, veut donner trois catégories distinctes de musique spirituelle, de musique chrétienne? Ou bien est-ce qu'il parle un peu comme nous, c'est-à-dire on dit une chose et puis on dit un peu différemment, et puis on ajoute encore une troisième locution pour arrondir un peu. On n'est pas tout à fait sûr, mais il y a quand même de la variété. Des hymnes, si vous regardez en haut de la page format A3, vous voyez que le hymnos, où on dit hymne, H-Y-M, hein, en français, est donc la translittération d'un mot grec qui veut dire un cantique qui s'adresse à Dieu. Donc il y avait des hymnes dans la religion grecque, et quand on allait faire des sacrifices à Apollo, alors on adressait un cantique, c'était un hymne à Apollon. Et donc c'était une forme assez bien définie dans la religion païenne. Donc si vous voulez retenir un peu cette distinction, c'est peut-être une bonne explication que l'hymne s'adresse à Dieu, qui parle de Dieu, à Dieu, et le cantique spirituel qui est un peu plus vague, hein, qui englobe l'expérience du chrétien, et où les paroles sont un peu plus, je dirais pas générales, mais c'est beaucoup plus plastique. On n'a pas besoin dans les cantiques spirituels de citer des textes bibliques.
Les cantiques sont souvent des remerciements aussi.
Par exemple.
Par l'expérience qu'on a eue avec le Seigneur.
Oui. Se servant de nos paroles à nous par rapport aux textes bibliques.
Comme quoi il est bon quand.
Donc la variété est autorisée. On n'a pas besoin de dire, il faut surtout les chants de témoignage, les psaumes, ça passe aussi. On va discuter un peu davantage de tout cela demain. Certains devront nous quitter, elles ont déjà présenté leurs excuses et on va les excuser. On va vous revoir demain?
Oui,
d'accord. Ok, encore deux passages à faire et puis on va essayer d'arriver à une sorte de conclusion pour la journée avant de passer demain à d'autres choses. Donc il y a Romains 15. Bonne route.
Merci, à demain.
Alors pourquoi est-ce que je vous ai demandé de regarder ce texte qui est un exemple du fait de chanter un psaume? En rapport avec l'évangélisation. Au début du verset 9, qui est l'acteur? Les païens. Ce sont les non-juifs. Hein? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils glorifient Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils glorifient Dieu? À cause de sa miséricorde. Et qu'est-ce qui appuie ce fait que les païens glorifient Dieu? On ne s'attend pas à ça. Hein? Les païens ne s'intéressent pas à Dieu. D'accord, mais ce texte-là, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. Quel est le contexte de ce psaume 18? C'est presque à la fin du psaume. Le verset 50 commence par « c'est pourquoi ». Alors, ça nous renvoie vers... les versets précédents. C'est pourquoi là. Pourquoi est-ce que le c'est pourquoi est là? La délivrance. Qui est délivré? De qui? David est délivré de Saül, de l'homme violent. Alors qu'est-ce que ça a à faire avec Romains 15? Comment? De l'homme violent? Disons,
du mal.
Du mal, oui. C'est une illustration. La délivrance de David de la main de Saül représente en quelque sorte le salut de tout homme contre qui Satan lutte pour le retenir, l'enfer, et le faire passer par le jugement de Dieu. Et à cause de cette délivrance, on adore le Seigneur. Donc, non seulement les Juifs le feront, comme David l'a fait, mais les nations le feront au jour. C'est pourquoi on pourra adorer le Seigneur, même parmi les nations qui auront subi, c'est pas le bon mot, expérimenté la même délivrance. Donc, c'est pourquoi il dit au verset 8, « Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père, tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. » Donc, juifs et païens ensemble. Là, quand on parle du salut des païens dans ce contexte, du salut des juifs, il est question d'évangélisation. Au chapitre 15, la question de l'évangélisation s'introduit ici dans cette partie du chapitre, et puis il parle à la fin du chapitre de ses voyages missionnaires. C'est un texte vraiment imprégné de la mission. Vraiment imprégné de la mission. Un psaume. Donc, un bon exemple. Le tout dernier texte que je vous ai demandé de regarder, groupe 7, c'était 1 Corinthiens 14, qui a plusieurs références au fait de chanter, au verset 26, tout particulièrement. Voilà. 1 Corinthiens 14, 26. Alors ça, c'est un verset qu'il faut expliquer. Le verset 15 aussi. Oui, parce qu'on chante, mais ça emploie un autre mot. Vous avez regardé le tout premier texte. Il y a en fait dans ma liste deux références qui emploient psalmo ou psalmos, le verbe ou le nom. 1 Corinthiens 14, 15. On va regarder ce texte d'avant. Allez-y. On va lire le texte. Ce qui veut dire quoi?
Être intelligent.
Il faut être compris par ceux qui écoutent. Oui, mais chanter par l'esprit et prier par l'esprit.
Est-ce que c'est pas chanter pour soi-même?
Est-ce que c'est par le Saint-Esprit ou est-ce que son propre esprit est engagé?
Le contexte, c'est de parler en langue.
Oui.
Verset 16, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs répondra-t-il Amen? Tu rends d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc verset 19, dans l'église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dire 10 000 paroles en langue. Chanter par l'esprit. je me souviens bien, c'est la préposition en en grec, qui peut être un datif ou un locatif ou un instrumental. Hein. Par le moyen de ou dans le, c'est ambigu. Donc, c'est la raison pour laquelle vos traductions diffèrent parfois sur ce texte. Je soupçonne qu'il s'agit ici de l'esprit humain, c'est-à-dire que son propre esprit est engagé. Le fait de prier, le fait de chanter, c'est quelque chose de spirituel, ça dépasse le mécanisme du corps, n'est-ce pas? C'est pas...
Et dans le contexte, j'ai l'impression qu'il prie pour lui-même, il chante pour lui-même, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'interprétation, ça ne donne rien aux autres personnes. Il peut chanter, mais si les autres ne comprennent pas ce qu'il dit...
Donc il veut établir le principe que quand on parle dans une langue humaine que nous n'avons jamais apprise et que l'autre ne comprend pas, il n'est pas édifié, donc c'est une perte de temps.
S'il y a pas d'édifié,
donc il ne faut pas faire ça.
Puisqu'on revient au début à exhortez-vous les uns les autres, si on dans ce contexte-là, ça ne va pas beaucoup aider l'exhortation.
Exact. Si je prie dans mon esprit, dans le silence, et l'autre n'entend pas ma prière, même si je suis actif spirituellement, dans la prière, l'autre ne sait pas ce que je prie, donc il n'est pas édifié. Donc il veut établir cette idée que il faut ce qui est intérieur, ce qui est spirituel, de par son dynamisme, et aussi ce qui édifie l'autre. Ça, c'est le contexte, disons, interpersonnel. Oui. Donc, chanter avec l'intelligence, c'est-à-dire pour être compris. Et aussi le verset 26. Que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez? Je pense que ça vaut la peine, même si vous n'avez pas étudié ce texte, ça vaut la peine de le citer, le verset 26. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Ceci en rapport avec ce qui est dit au début du chapitre, parce qu'il dit lorsque vous venez ensemble, chacun a un chant, chacun une prière, une lecture, etc. Parfois on dit ceci nous montre l'ordre du culte, et que comme dans les assemblées de frères par exemple, chacun peut suggérer un cantique, chacun peut avoir une parole, et ainsi de suite. Donc c'est très libre. Mais je pense que dans le contexte d'un Corinthiens 14, c'est beaucoup plus sensé de le comprendre comme une reproche qu'on fait aux Corinthiens. Vous avez le chaos chez vous. Chacun se précipite à proposer un chant, et l'autre veut avoir la parole, et celui veut faire cela. Et c'est la concurrence, ce qui mène au chaos. Donc il met de l'ordre plutôt à la fin, que tout se fasse pour l'édification, qu'il y ait donc un ordre avec ces différents aspects, mais que ça vise vraiment l'édification. Il y a une certaine liberté dans le culte et on peut organiser les choses différemment, mais lorsque c'est pour s'imposer, pour se mettre en avant, quoi que soit l'église locale, c'est à côté de ce que le Seigneur veut. Bon, là, comme j'ai dit, nous avons fait un peu d'archéologie textuelle, parce que je vous avais quand même donné tout un tas de passages, et puis vous avez pris votre pelle, vous avez secoué quelques petites pierres, vous avez regardé celle-ci, vous avez regardé celle-là. Est-ce qu'on peut déjà en venir à quelques... conclusion quant au vocabulaire biblique? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez remarqué dans la lecture de ces textes et dans le partage de nos textes? Et regardez encore une fois, faites un bilan des colonnes, et puis parlons un tout petit peu, on a encore 15 minutes, parlons un tout petit peu des conséquences pour l'emploi de la musique dans l'évangélisation. Tout à fait. On voit très peu d'exemples. Est-ce que vous avez déjà vu dans ces textes un exemple des juifs ou des chrétiens qui se servent de la musique expressément pour faire de l'évangélisation? Est-ce qu'il y a des concerts d'évangélisation dans ces textes? On n'a pas vu tous les textes, mais dans les textes que je vous ai montrés. Est-ce qu'il y a des programmes de Noël? Concerts de Pâques? Halloween? Oh non, non, non. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, on cherche un peu. Hein. Comment justifier un peu ce que nous faisons? Bon, le but maintenant, c'est de commencer par les Écritures et de dire, bon, comment est-ce que le peuple juif a voulu témoigner devant les nations de la grandeur de leur Dieu? Comment est-ce qu'ils ont fait? Dans le temple, au tabernacle, comment ils ont fait en se servant de la musique? Tout à fait. Là où je vois la répétition de certains schémas, si on peut parler de schémas, c'est que la musique essentiellement s'adresse à Dieu et au peuple de Dieu pour renforcer les liens entre le peuple de Dieu. Et s'il y a des gens non convertis qui écoutent, bah, tant mieux. Mais ce n'est pas spécialement pour les atteindre, c'est presque accessoire. Mais on vise vraiment l'adoration du Seigneur. Et tous ces psaumes qu'on n'a pas encore regardés, c'est un cantique à Dieu. Hein? On s'adresse tout le temps au Seigneur. Est-ce que vous voyez le côté sentimental? Quel est le rôle de l'émotion dans ces psaumes? Comment arriver à quelque chose de sain et d'équilibré là-dedans? C'est essentiel.
Oui.
On va revenir à cette question demain, mais je serais curieux de savoir si vous regardez un peu en arrière dans votre expérience de chrétien, dans votre église, lorsque vous avez préparé, parfois à grands efforts, un concert pour des fêtes, des activités, vraiment quelque chose de très très spécial, vous invitez des gens. Quel est l'impact, en général, quel est l'impact de la musique qui cible vraiment l'évangélisation? Qu'est-ce que vous observez? Est-ce qu'on atteint le but? D'abord, est-ce qu'on attire les gens? Est-ce qu'ils viennent écouter?
Oui.
Qui sont ces gens qui viennent? Les contacts que vous avez déjà, est-ce que c'est le grand public? Vous faites des invitations quand même?
Oui.
Oui, il y a des gens qui viennent?
C'est
la rançon. C'est la rançon qui attire les gens. Et puis par la suite, on donne le message. Est-ce que vous voyez des exemples dans ces textes bibliques où la musique est la rançon qui attire les gens et puis on parle aux gens après pour expliquer le message?
Un peu l'exemple de Paul et Silas qui chantaient en prison, mais que dans leur tête, ils ne chantaient pas forcément pour évangéliser, mais je pense que c'était un fort témoignage quand même.
Tout ce que Paul a dit.
Deux hommes qui chantaient après avoir été battus et se gênaient.
Surtout quand c'est suivi par un tremblement de terre. D'autres constatations? D'autres questions que vous aimeriez poser? On n'a pas encore vu l'ensemble de la problématique, hein, c'est en guise d'introduction.
Oui, parce qu'on avait aussi une prédication derrière. C'est-à-dire qu'il y avait non seulement... Il y avait aussi... Et là, j'ai eu aucune réponse. C'était toujours très, très évasif. Et... À la limite, je n'avais pas l'impression, on l'a même partagé, je n'avais pas l'impression que les gens avaient, à part les personnes qui sont venues et qui ont déjà un contact avec les chrétiens, et ce n'est pas la première fois, ils ont déjà entendu l'évangile, ils ont déjà entendu le message, ils sont venus parce qu'ils ont déjà entendu le message, mais ils n'ont pas encore fait le pas. les gens étaient très évasifs sur, sur la, l'aspect message reçu. Mmh. C'est la première fois que j'ai fait cette expérience, c'était la dernière.
Très instructif, ça. Ouais.
Mmh. Et là, tu ne sais pas s'ils si n'ont pas donné une réponse claire parce qu'ils n'ont pas compris,
oui.
ou c'est parce qu'ils ne veulent pas le dire.
Oui,
parce qu'ils se sentent concernés. Mmh. Oh, ça veut dire qu'il faut que je me repente comme... On ne peut pas savoir, mais c'est très... Mais c'est... Ouais, c'est très intéressant.
Mon expérience dans l'évangélisation, c'est que c'est quelque chose de très progressif. La musique peut faire partie d'une progression. Et c'est quelque chose qui a à faire avec des relations personnelles. C'est très, très rare que de la rue, il y a quelqu'un qui se présente et qui dit « je me convertir, qu'est-ce que je dois faire ?» Ça peut arriver. Mais au Luxembourg, en tout cas, les gens ne courent pas la rue en cherchant quelqu'un, surtout un pasteur évangélique américain, pour aller se confesser et demander où comment ils peuvent se convertir. Et on va développer ce thème demain. Je vous lance ce défi de prendre encore peut-être une petite heure ce soir, avant de vous coucher, regardez encore d'autres textes. Regardez des textes que nous n'avons pas encore parcourus pour voir si la ligne principale que nous avons essayé d'esquisser ici, la musique dans la Bible sert principalement à adorer le Seigneur, le peuple de Dieu emploie la musique comme un outil super fort pour adorer le Seigneur, pour exprimer sa voix, sa confiance, ses lamentations, toute la gamme d'émotions de la vie spirituelle. On s'adresse à Dieu, on le fait ensemble, et l'inconverti, qu'il soit près, le voisin, qu'il soit loin, les gens qui écoutent la célébration de la dédicace des murs de Jérusalem, etc., ils entendent, et puis ils prennent position. Est-ce qu'il faut aller chercher un peu plus ou pas? Il semblerait que dans les textes que j'ai pu parcourir jusqu'ici, que c'est un peu comme dans 1 Corinthiens 14, l'inconverti qui se trouve dans le culte chrétien, il entend la prédication, la prophétie, il comprend, il est convaincu. Waouh, il faut que je me convertisse parce que je comprends la parole de Dieu. Et ça peut être transmis par un chant et aussi par la prédication. Ça fait un tout. Mais se servir de la musique principalement pour évangéliser, j'ai du mal à trouver ça dans la Bible. C'est, en tout cas, c'est peut-être une petite rivière. C'est comme le fleuve, l'Alzette. Les fleuves au Luxembourg, c'est large comme ça. Mais on parle ici de l'Amazon, hein, le grand fleuve de la révélation biblique par rapport à la musique. Le grand emploi, c'est le peuple de Dieu qui est converti, qui rend grâce à Dieu. Et l'inconverti écoute, et puis il sera peut-être attiré, peut-être pas, mais on cherche à le toucher surtout par le message et par le contact, la conversation avant, durant et après. Et la musique, il me semble, dans la Bible, ne peut pas faire tout ça elle seule.
Ça fait penser un peu à la Pentecôte, un peu à lorsque l'Esprit est venu, il a entendu cette gloire qui était rendue à Dieu, ils se sont approchés, ils étaient étonnés de ce que les autres faisaient. Et puis après, il y a eu, par exemple, le message, et là, je veux le toucher aussi.
Donc peut-être qu'on a besoin quelque part de nuancer les choses dans votre vision de l'emploi de la musique dans votre église. Et puis notre but, comme on a dit tout au début de la journée, c'est que chacun d'entre nous puisse partir en disant « Ah, il y a des choses qu'il faut absolument sauvegarder dans ma pratique. Il y a des choses que je devrais peut-être changer ou mieux faire, ou peut-être des choses que je dois soustraire. » Franchement, en guise disons, conclusion pour ce soir. Je peux vous dire que parfois dans notre église, des concerts, enfin, peut-être pas des concerts, mais des fêtes de Noël, surtout des fêtes de Noël, on passait énormément de temps à la préparation de ces activités-là. Et puis on invitait des gens et on ne les revoit pas. On ne les voit jamais. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont venus pour voir prendre des photos des petits-enfants qui étaient angéliques, des ailes, et puis le petit Joseph, la petite Marie, et puis la poupée dans la crèche. Et puis c'est charmant, il faut dire que c'est charmant. Et tout le monde, ça plaît. Mais est-ce que le message passe vraiment? Si on consacrait autant de temps, disons que je parle des chrétiens qui sont engagés dans des fêtes comme ça, si on passait autant de temps dans les invitations, venez chez moi, on va prendre un repas ensemble. Aimeriez-vous peut-être lire la Bible avec moi? Si on passait vraiment du temps à évangéliser, comme on nous dit de faire, est-ce qu'on serait plus efficace? Est-ce qu'on est trop dépendant de la musique comme en son, excusez-moi de ce mot, est-ce qu'on se sert des outils que le Seigneur nous donne de la manière la plus efficace? Je pense que c'est un sujet de réflexion pour nous tous, puis on va y revenir demain. Demain, ce qu'on va faire, c'est faire une étude de trois synthèse théologique de la problématique de la méthodologie en général. Et on va surtout appliquer ces conclusions à la question de la musique, l'emploi de la musique. Je pense qu'on peut pas faire ça demain matin pendant l'heure et demie qu'on a, les 90 minutes. Et puis demain soir, nous allons faire le début de notre survol ultra rapide en Concorde. Sur l'histoire de la musique dans l'église, et on va même commencer bien avant. On va commencer par Satan. Donc voilà le programme pour demain. Merci de votre participation. Vous avez bien travaillé aujourd'hui, hein. Félicitations à tous. Et puis